l'éducation populaire comme réponse aux enjeux de prévention et d'émancipation en santé. L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Éric Legrand et Christine Ferron, qui interviendront pour une matinée sur l'éducation populaire comme réponse aux enjeux de prévention et d'émancipation en santé. Je suis Florian Béton et vous écoutez le podcast « Bâtissons des futurs solidaires » de l'Institut Montparnasse. Christine Ferron, vous êtes déléguée générale de Fédération Promotion Santé. Éric Legrand, vous êtes sociologue, consultant en promotion de la santé et professeur affilié à l'EHESP. Christine Ferron, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération Promotion Santé ?
Bonjour. Alors oui, je peux vous présenter la Fédération Promotion Santé. C'est une association, loi 1901, qui représente un ensemble d'associations régionales qui sont membres de son réseau. Il existe à l'heure actuelle 16 associations régionales adhérentes à Fédération Promotion Santé. Dans un ensemble de régions dans l'Hexagone et à l'Outre-mer. Et c'est notre réseau, c'est le réseau de Fédération Promotion Santé. Et la fédération, le siège de la fédération, a principalement quatre grandes missions. La première, c'est une mission traditionnelle d'animation de réseau, donc d'animation de ce réseau d'associations régionales. Une mission de renforcement des partenariats avec d'autres têtes de réseau associatives. Une mission de plaidoyer politique auprès des institutions au niveau national. Et enfin, une quatrième mission de coordination de projets nationaux dans le cadre de conventions avec ces institutions nationales.
Merci. Et ces associations régionales, quels sont leurs rôles ?
Alors, ces associations régionales, donc qui s'appellent en région Promotion Santé, suivie du nom de la région, comme Promotion Santé Bretagne ou Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, Promotion Santé Martinique, ce sont donc bien des associations loi 1901 qui ont des missions qu'on qualifiera d'acteurs de seconde, voire de troisième ligne, c'est-à-dire qu'elles n'interviennent plus que de façon exceptionnelle directement auprès des publics, auprès des populations. Par contre, elles apportent un appui méthodologique, un soutien aux acteurs qui sont, eux, en contact direct avec les publics, qu'on va appeler des acteurs de première ligne ou des acteurs relais. Elles sont également en appui aux institutions au niveau régional, départemental, local. Et cet appui, il passe, là encore, par la réalisation d'un certain nombre de missions. La première, ça va être une mission de formation, qui est très importante parmi les activités de ces associations régionales. Une mission de conseil et d'accompagnement méthodologique de projets, programmes, politiques. Il existe aussi au sein des associations régionales des centres de documentation spécialisés en promotion de la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le seul réseau à proposer ce type de service documentaire spécialisé. Et ça me semble important de le préciser, d'autant plus que ces centres de documentation se situent généralement au niveau départemental, donc vraiment en proximité avec les acteurs. De plus, depuis un certain temps, les associations régionales ont aussi développé des relations avec les universités, avec les équipes de recherche, avec les laboratoires de recherche pour le développement de la recherche dans notre champ, recherche interventionnelle, et puis également ce qu'on appelle le transfert ou le courtage de connaissances, c'est-à-dire l'établissement d'un lien entre les savoirs expérientiels des acteurs et les savoirs issus de la recherche.
Éric Legrand, vous êtes professeur affilié à l'École des hautes études en santé publique. Pouvez-vous nous présenter vos travaux sur l'éducation par les pairs ?
Oui, alors sur les travaux sur l'éducation par les pairs, alors c'est l'éducation pour la santé par les pairs. Alors, maintenant, certains disent la prévention par les pairs. Enfin bon, il y a plein de dénominations différentes. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en 2010, dans le cadre du Fonds d'expérimentation des jeunes, sur une évaluation nationale de programmes qui existaient et qui étaient expérimentés sur cette question, l'éducation par les pairs, en direction des jeunes, qui à ce moment-là était peu développée en France. On retrouvait cette dynamique-là plus dans les années SIDA, qui a été, je dirais, le fer de lance, tant au point de vue des associations que des populations, justement, de réfléchir sur cet aspect-là. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, que ce soit un jeune ou d'autres types de publics, aille s'adresser à un autre jeune après une formation sur les questions de santé, soit pour apporter des messages, soit pour orienter aussi, puisqu'il y a aussi, tout comme pour les professionnels, on a parfois du mal à s'orienter dans les dispositifs pour la population, et là c'était plus en direction des jeunes bien sûr, on a le même type de difficultés. Donc c'est effectivement de renforcer un peu ces liens de proximité des uns avec les autres, et de croire que chacun aussi, de croire et de postuler que chacun a les compétences, les ressources pour accompagner, aider les autres et les informer de ce qui existe, puisque on sait que quand une information vient d'un pair, P-A-I-R, je précise bien, parce que c'est toujours compliqué, il y a plus de chances, effectivement, que ça soit entendu, etc. Et ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux jeunes, puisque depuis 2010, je dirais, on a des programmes en prison, on a des programmes au point de vue, je dirais, des sans domicile fixe. Voilà, ça dépasse, je dirais, la question uniquement des jeunes, hein, même si depuis 2010, maintenant, il y a plein de programmes autour des jeunes sur ces aspects-là.
Alors, on voit bien que les programmes autour de la santé sont divers. On parle de santé d'un point de vue holistique. Nous ne sommes plus sur une vision exclusivement médicale. Vous abordez plusieurs concepts. Éducation à la santé, éducation pour la santé. On parle de prévention, de promotion de la santé. Quelle distinction faites-vous sur ces concepts ?
Alors, en fait, la promotion de la santé, pour nous, englobe tous les autres concepts. C'est-à-dire qu'on va retrouver, à l'intérieur de la promotion de la santé, on va retrouver des actions, des programmes qui vont relever davantage de la prévention, des risques. On va retrouver évidemment des actions, programmes d'éducation pour la santé ou d'éducation thérapeutique du patient. Et on va retrouver, alors ce qui constitue pour nous en tout cas le cœur du projet en fait de la promotion de la santé, c'est tout un ensemble d'activités, de programmes, d'actions qui vont viser à terme le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes et des collectifs sur toutes les questions de santé qui les concernent. Et ce renforcement du pouvoir d'agir, c'est peut-être important de le dire d'emblée ici, ce n'est pas uniquement le renforcement d'un pouvoir d'agir individuel, c'est aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'agir communautaire, donc vraiment le pouvoir d'agir des collectifs, donc aider les collectifs à s'organiser pour porter une parole politique sur la santé. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'empowerment organisationnel, c'est-à-dire faire en sorte que l'organisation des établissements, des services, des systèmes, des politiques permette à ce pouvoir d'agir individuel et collectif de s'exprimer. Donc ça veut dire qu'on va agir à différents niveaux. Et là, je vais vous renvoyer à notre document de référence qui est la Charte d'Ottawa, évidemment, hein, qui postule qu'il faut agir à cinq niveaux d'intervention, hein, pour produire des effets sur la santé des populations. C'est faire en sorte que les politiques publiques intègre bien la question de la santé, hein, c'est ce qu'on appelle nous aussi la santé dans toutes les politiques, c'est l'action sur l'ensemble des déterminants de la santé, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, c'est l'action sur les environnements et conditions de vie et de travail, c'est le renforcement de toutes les démarches communautaires en santé, c'est-à-dire le renforcement de la participation. C'est aussi l'éducation pour la santé dont j'ai déjà parlé et le renforcement des aptitudes individuelles. Et c'est aussi ce qui est désigné dans la charte d'Ottawa comme la réorientation des services de santé dans le sens d'une plus grande prise en compte des besoins des personnes qu'ils prennent en charge. Et là-dedans, on va retrouver tout ce qui concerne la place des patients, en fait, dans les systèmes de santé. Ça va être la prise en compte de la parole des usagers, ça va être tous les dispositifs qui tournent autour de la démocratie en santé et de la prise en compte aussi de la parole des populations sur les systèmes de santé.
Éric Legrand, je vois que vous avez envie d'intervenir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, c'était parfaitement clair, mais... Non, mais je crois que par rapport à... Christine, c'est cela ? Oui, par rapport à ce que disait Christine, moi, je crois que ce qui est surtout aussi important et qui peut aussi permettre de clarifier un peu les modalités, alors je dirais d'intervention ou de posture, c'est la place de la personne dans l'action. Comment on prend en compte ou qu'on ne prend pas en compte, voilà, après, mais au moins, comment on prend en compte son avis, ses représentations, comment on construit avec elle. On n'est pas sur, je dirais, juste une information ou juste une pseudo-participation à une conférence ou autre. C'est comment on accompagne la personne, mais c'est vraiment une question de posture. Comment on prend en compte, effectivement, ses questionnements, ses représentations, ses savoirs. Ces savoir-être, ces savoir-faire, ces savoir-vivre permettent, je dirais, aussi de réfléchir aux modalités d'intervention et qui permettent justement de donner du pouvoir d'agir aux gens. L'information seule ne suffit pas. Et surtout quand c'est une information descendante, il faut vraiment qu'elle soit adaptée. Et pour qu'elle soit adaptée, bah, faut aussi discuter avec les gens, savoir comment ils vivent. Et j'aime bien citer... Roland Massé du Québec, les gens ne sont pas des cruches vides.
C'est Raymond.
Raymond, voilà, c'est à chaque fois. Mais non, mais donc c'est Raymond,
non,
voilà.
C'est Raymond Massé,
voilà, c'est Raymond Massé qui dit très bien, les gens ne sont pas des cruches vides. Et je crois que ça c'est un élément qui est vraiment central, c'est-à-dire quelle que soit la personne, quel que soit son endroit, quelle que soit sa vie, il y a des savoirs qui existent et qui est nécessaire effectivement de prendre en compte et aussi de prendre en compte le milieu de vie dans lequel est la personne. Parce qu'on peut développer autant de campagnes de prévention que l'on veut, de communication. Il faut que ça soit aussi adapté au milieu de vie de la personne, à sa situation et pas calqué. Je dirais, je le dis un peu souvent comme ça, ce que les bobos veulent mettre en place pour la santé et pour le bien de l'autre, sans savoir effectivement comment il le vit. Je trouve que l'exemple le plus flagrant, c'est 5 fruits et légumes. Enfin, on peut en trouver d'autres. Bah oui, 5 fruits et légumes, c'est très joli comme ça, mais il faut que ça soit adapté aussi aux réalités des personnes, au risque de creuser les inégalités, puisque quels sont ceux qui mangent 5 fruits et légumes ? C'est les classes supérieures aisées. Et donc, du coup, on crée encore plus des inégalités et on stigmatise les populations qui n'en ont pas les moyens financiers, humains, culturels. Enfin, après, il y a plein de choses, ou même d'habitat. Je pense aussi à des familles qui vivent dans des hôtels. Elles n'ont pas les moyens de conserver très gentiment leurs légumes, d'acheter des produits au marché aussi. Donc, je crois que c'est là où il y a une différence. Voilà, c'est la promotion de la santé prend en compte justement ces questions d'environnement et agissent à la fois avec, pour et en même temps sur l'environnement. Parfois, la prévention ne s'intéressera juste, je caricature volontairement les faits, que voilà, sur des aptitudes, il faut que tu manges 5 fruits et légumes, point. et au risque justement de créer des inégalités, de les renforcer. Et en plus, en stigmatisant les individus, et ça, je crois que c'est aussi ça, et en renvoyant la culpabilité vers l'individu, tu n'es pas capable de maigrir, de bien manger, d'arrêter de fumer, etc. C'est de ta faute. Alors que, globalement, on le sait, les inégalités, elles sont structurelles. Et si on agit sur les inégalités structurelles, on a beaucoup plus de chances, je dirais, d'améliorer la santé de la population que si on leur dit « mets-toi à faire un footing tous les matins », etc.
De ce point de vue-là, le dialogue de pair à pair facilite l'intégration de l'information. Quand nous prenons l'exemple de l'autorité, comme l'autorité médicale, la question de la posture devient éminemment importante. Dans quelle mesure vous accompagnez ces organismes-là ? Avez-vous des exemples concrets à nous présenter ?
Oui, tout à fait. Ça fait partie vraiment de nos pratiques que d'accompagner, j'ai cité les missions des structures régionales, que ce soit dans le cadre de formation, d'accompagnement méthodologique, d'appui à la coordination, d'appui à l'évaluation. Cette dimension-là, alors de la posture éducative, elle va être au cœur du sujet. Puisqu'effectivement, c'est aussi dans le cadre de ces démarches éducatives que va se rejouer ou se jouer un potentiel rééquilibrage des pouvoirs, en fait, entre les personnes concernées et les professionnels autour de questions de santé. Alors, je peux donner l'exemple de l'accompagnement que notre fédération apporte à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2013 dans le cadre d'une convention que nous avons avec la direction de la PJJ et singulièrement avec le pôle santé de la PJJ, où en fait il y avait, lorsque nous avons commencé à travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse, principalement en fait trois grands enjeux. Le premier, c'était effectivement que tout le monde adopte une définition de la santé que vous avez qualifiée d'holistique, c'est-à-dire la santé, c'est pas la vie dans le silence des organes, mais c'est aussi toute la dimension psychologique, sociale, relationnelle. Et ça, c'était une dimension qu'il était important d'apporter au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Le deuxième grand enjeu, c'était de faire entendre que tous les acteurs en fait, de la protection judiciaire de la jeunesse avaient un rôle à jouer dans les questions de santé, que ça ne concernait pas uniquement les conseillères techniques santé ou les infirmières ou les professionnels de santé de passage, mais que tous les acteurs au sein de la protection judiciaire de la jeunesse pouvaient être concernés, évidemment, les éducateurs et les éducateurs et les éducatrices, les directeurs, directrices des missions éducatives, les responsables d'unité, enfin, tout le monde était concerné par les questions de santé. Et puis, le troisième grand axe, c'était d'intégrer aussi qu'il ne s'agissait pas uniquement de renforcer les aptitudes individuelles des jeunes ou leurs compétences, mais aussi d'agir sur tout leur environnement de vie au sein des structures de la protection judiciaire de la jeunesse et de réfléchir vraiment de façon globale autour des cinq axes de la Charte d'Ottawa que j'ai détaillée il y a quelques minutes.
Merci Christine. Eric, sur la question des pairs, vous avez suivi un certain nombre de programmes. Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns ?
Alors, donc différents programmes. Alors il y en a qui sont plus engagés sur la question de l'engagement des jeunes, notamment en service civique. Je pense à Unicité, notamment sur les repères santé. C'est leur nom de code, mais c'est en disant effectivement qu'Unicité a été une des premières associations sur la question du service civique. Je me situe bien sur la question du service civique, à travailler sur la question de l'engagement des jeunes sur la santé. Enfin, en termes d'éducation par les pairs, en termes de dispositifs. En Bretagne, il y a un terme générique qui est financé par le conseil régional, qui est soutenu par le conseil régional dans le cadre du plan de la mobilisation de la jeunesse. Je crois que ça, c'est important. On n'est pas dans le champ de la santé, mais dans le plan de mobilisation de la jeunesse qui s'appelle les CORES Santé. Donc, c'est le nom de code, je dirais, générique, hein, dans lequel certains programmes se développent à la fois dans les missions locales, dans les établissements scolaires, dans les points écoute jeunes. Voilà, on a différents dispositifs. Et après, en France, oui, il y a plein d'autres programmes qui existent, qui peuvent prendre des noms bien évidemment différents. On a aussi des interventions sur l'espace public, hein, je pense hein, aux nosambules qui sont sur Rennes, mais qui prennent d'autres noms selon les territoires. Il y a un dispositif aussi qui est porté par la mutuelle des étudiants qui s'appelle Citizen, qui est à Paris. Donc des jeunes qui interviennent dans les CROUS hein, et dans les hébergements des jeunes étudiants. Bah pour savoir déjà comment ils vont, déjà, je crois que ça c'est déjà un premier point, et puis les orienter aussi vers des lieux qui ne sont pas forcément uniquement santé, hein, qui peuvent être sur d'autres, que ce soit, je dirais même une assistante sociale, etc. Donc, je dirais, il y a effectivement pas mal de programmes en région centre, Val-de-Loire, il y a un programme autour de l'éducation à la sexualité qui est porté par... le niveau régional de la Fédération Promotion Santé. On appuie avec le Conseil Régional, l'Agence Régionale de Santé. Voilà, donc on a pas mal de dispositifs, je dirais, qui existent. Alors, là où je veux préciser, c'est qu'on dit dispositifs parce que, voilà, ils sont soutenus, développés en tant que tels. Mais je dirais que la question de l'éducation par les pairs, c'est plus aussi une question de posture et d'engagement en tant que tel, et justement ces jeunes qui s'engagent, voilà, ils ont aussi la volonté, parce que c'est du volontariat dans la plupart des situations, ils ont la volonté de faire bouger un certain nombre de choses, alors d'aider les autres, voilà, ça c'est un point qui est assez central, donc une pensée altruiste qui tranche avec les images d'individualisme qu'on renvoie sur les questions de jeunesse. Mais c'est parce que aussi ils ont pu voir des situations problèmes. Par exemple, voilà, dans l'internat, il n'y a personne qui s'occupe de la santé des lycéens qui sont là. Bah, nous, on a peut-être envie de faire des choses ou des choses très triviales aussi. Hein, enfin, triviales, quand je dis triviales, voilà, améliorer le restaurant scolaire. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, c'est aussi par rapport à leur propre vécu. Ils ont pu avoir aussi des... Alors, je dirais des expériences négatives de santé ou même parfois des expériences négatives liées à la fréquentation de professionnels de santé. Je crois qu'il y a aussi quand même cette dimension. Et puis, il y a aussi une volonté d'améliorer la manière dont les adultes parlent aux jeunes sur les questions de santé, qui reste encore, même s'il y a beaucoup d'améliorations, encore très stigmatisantes. Voilà, où on a l'impression que le jeune n'est uniquement à risque que pour lui et les autres. Donc, voilà, en gros, les jeunes, ce sont que des mots de santé, si on prend, alors mot MAUX, hein, si on prend les politiques publiques, hein, ça, j'insiste bien là-dessus, et on le retrouve, même s'il y a des choses qui s'améliorent, bien sûr. Voilà, ils sont tous alcooliques, dépressifs, sexuellement débridés, etc. Et... en fait, on renvoie une image uniquement d'un jeune à conduite à risque. Alors que paradoxalement, d'ailleurs, c'est une période d'expérimentation. Donc là, il y a une petite tension qui se crée. Et parfois, avec des discours inadaptés. Alors, en disant ça, attention, hein, je ne dis pas que, heureusement, les professionnels, etc., sont attentifs aux questions de posture. Je m'adresse quand même beaucoup plus sur les questions de politique publique, où on reste quand même... sur une dimension, alors jamais les politiques publiques disons qu'ils ont une vision négative du jeune, hein, c'est quand on les met bout à bout, qui donne quand même une image assez négative, et parfois les campagnes de communication ne sont pas non plus adaptées, je dirais, aux jeunes directement. Donc, pour ces jeunes qui s'engagent, voilà, il y a envie de faire quelque chose sur la santé, mais aussi, parfois aussi de changer le regard de l'adulte sur le fait que les jeunes aussi ont des ressources pour agir. Et je crois que ça, c'est un petit peu au cœur, hein, je dirais, des dynamiques d'éducation par les pairs, même si, effectivement, on peut aussi avoir des différences entre, je dirais, utiliser les... Alors, je dis bien utiliser, là, vraiment, des jeunes éducateurs pairs en moyen, je dirais, de la santé publique, c'est-à-dire, voilà, ben, on veut faire des actions sur le tabac, on sait que les jeunes, ça parle mieux aux jeunes, donc on va instrumentaliser le jeune, et d'autres types de démarches qui, justement, favorisent l'engagement des jeunes en disant, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous voulez faire sur le terrain ? Et parfois, on est aux antipodes. C'est un peu les différences de définition sur la participation. On va utiliser l'altruisme du jeune à des fins de santé publique et de l'autre à des fins d'empowerment et de promotion de la santé. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. Et c'est une tension qui existe puisqu'il y a une floraison d'éducateurs pairs partout. Et on voit bien que cette dimension, parfois d'instrumentalisation de la jeunesse, peut être aussi présente dessus.
Christine, vous avez une réaction ?
Non, en fait, je suis désolée, je voudrais rajouter une phrase à ce que j'ai décrit de la protection judiciaire de la jeunesse. Je ne sais pas si c'est possible. C'est aussi important que chacun comprenne que la promotion de la santé des jeunes, c'est aussi un levier de l'accompagnement éducatif des jeunes pris en charge au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, et que c'est aussi un levier de leur future insertion sociale, professionnelle, voire scolaire, etc.
Si je peux complété par rapport à ce que disait Christine à l'instant, c'est-à-dire que toute forme d'engagement, mais si au moins on est sur les dimensions éducation par les pairs, parce qu'il y a plein d'autres formes d'engagement qui existent, on voit, et moi j'ai pu le montrer, qu'à partir du moment où ces jeunes s'engagent dans des dispositifs, on voit les effets aussi que ça en termes de trajectoire sociale, en tant que tel, c'est-à-dire ils vont apprendre des choses, ils vont développer des choses, ils vont développer des compétences et ou les renforcer, parce qu'il y a aussi ce levier-là. Et on voit à quel point ça accompagne, je dirais, dans l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, la citoyenneté, le rapport, je dirais, alors aux adultes selon l'âge que l'on a, bien évidemment, mais aux professionnels. C'est-à-dire que, je dirais, moi, je lis beaucoup cette question de la promotion de la santé, de l'engagement, à la question de la place et de la reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'on les accompagne, je ne sais pas si c'est le bon terme. Au travers de cet accompagnement, ça permet de redévelopper cette question de la place, mais en termes de citoyenneté, de reconnaissance, parce que la reconnaissance sociale, elle est aussi donnée par les autres. Et là, on voit qu'il y a un changement de regard qui existe de la part des professionnels, des institutions, etc., en disant, ben voilà, les jeunes, puisque là on est sur le public jeune, mais on l'a sur d'autres types de publics, bien évidemment, on voit un peu les mêmes effets. Ils ont des ressources, ils ont des engagements. Et du coup, voilà, ça permet aux professionnels d'avoir un autre regard aussi sur les publics, d'une façon générale, et je crois que c'est important. Donc on a à la fois, au travers de ces actions, de ces dynamiques, des perspectives d'insertion sociale et professionnelle, et de citoyenneté et de démocrate, des questions aussi de reconnaissance sociale et de place sociale, et aussi un changement de regard des professionnels sur ce qu'est l'individu, sur ses potentialités, ses ressources, et je dirais aussi qu'in fine, au travers de ces actions, ça améliore la qualité de vie des professionnels et aussi des publics qui y sont.
Avec vos exemples, on comprend que la santé est l'affaire de toutes et tous. Christine, quels sont les principaux enjeux auxquels la Fédération Promotion Santé est confrontée aujourd'hui, notamment dans sa mission de réduction des inégalités en santé ?
Alors, je dirais que les principaux enjeux aujourd'hui qu'on peut identifier au niveau national, et bien sûr, la réduction des inégalités sociales de santé en fait partie. C'est justement une prise en compte réelle des principes d'intervention de la promotion de la santé dans les politiques publiques et singulièrement les politiques publiques de santé. Parce qu'aujourd'hui, la promotion de la santé, elle figure bien au fronton de tous les documents institutionnels, des stratégies nationales de santé, des différentes lois de santé qui ont été promulguées au cours des dernières années, etc. Mais en réalité, quand on regarde ce qu'il y a derrière ces frontons, eh bien, ce n'est pas vraiment de la promotion de la santé qu'on y trouve. On y trouve beaucoup de prévention, en particulier de prévention médicalisée, donc de la prévention qui va concerner le milieu de soins, qui est très importante, bien sûr. Hein, c'est vraiment un lieu où peut se déployer la santé, et heureusement, et c'est très bien. Mais ça laisse de côté, malheureusement, tout un potentiel en fait, d'intervention en promotion de la santé qui permettrait justement d'avoir cet impact sur les inégalités sociales de santé de manière beaucoup plus importante. Et les difficultés en fait, que l'on rencontre, c'est nos interlocuteurs au niveau national. Généralement, alors heureusement, il y en a un certain nombre qui ont intégré une forme de culture de promotion de la santé, et c'est très bien. Mais la plupart de nos interlocuteurs au niveau national n'ont pas en fait cette culture de promotion de la santé qui leur permettrait d'être vraiment porteurs de ce type d'approche. Et dès lors qu'on sort finalement des institutions nationales de santé et qu'on va vers un public qui pour nous est aussi très important en termes de plaidoyer, qui sont les parlementaires, qui sont les conseillers santé au sein des ministères, les référents santé au sein des institutions nationales qui n'ont pas forcément d'ailleurs pour principal objectif la santé, hein, eh bien là, ça devient, on s'éloigne encore plus en fait d'une connaissance approfondie de la promotion de la santé. Et ce qu'on sait, c'est que par ailleurs, les politiques qui seraient à même de réduire les inégalités sociales de santé, ces politiques, ce sont des orientations qui transformerait en profondeur en fait le fonctionnement social, institutionnel dans notre pays. On peut parler par exemple des politiques qui viseraient à atténuer les effets de la stratification sociale sur l'état de santé. C'est tout ce qui relève de la justice fiscale, de la redistribution des ressources, de la lutte contre les inégalités scolaires par exemple. Ça va être toutes les politiques qui réduisent l'exposition des personnes les plus vulnérables à des conditions délétères d'existence. C'est donc toute l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, l'urbanisme favorable à la santé, la question du risque au travail, par exemple. Ce sont aussi les politiques qui viseront à réduire la vulnérabilité des groupes les plus défavorisés. Et on va trouver tout ce qui relève de l'accompagnement psychologique et social de ces personnes, des politiques de soutien à la parentalité, par exemple. Et enfin, les politiques qui vont réduire les conséquences sociales et économiques inégales de la maladie. Et là, on va trouver l'accès aux soins primaires, l'accès à des complémentaires santé, etc. Et malheureusement, si vous prenez tous les exemples que je viens de citer là, je crains pouvoir dire que les politiques qui sont menées en ce moment sont l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc on ne sent pas aujourd'hui cette volonté politique de réduire les inégalités sociales de santé. On ne sent pas le projet politique de réduction des inégalités sociales de santé. Et donc, nous avons évidemment un travail colossal à réaliser pour faire entendre la voix de la promotion de la santé dans ce contexte politique qui est défavorable. Mais c'est une tâche à laquelle nous nous attelons au quotidien.
Éric Legrand, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, par rapport à ce qui vient d'être soulevé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, je crois qu'aussi un des enjeux qu'il y a, c'est justement de privilégier le plus en plus le collectif au détriment de l'individu. On voit que les politiques publiques, qu'elles soient de santé ou autres, vont de plus en plus vers l'individu, Alors qu'on sait que un des moyens, c'est justement de travailler sur le collectif en termes de soutien social, en termes de discussion, etc. Et je crois que là, il y a un enjeu vraiment central et on voit même l'impact que ça a d'ailleurs sur les questions de santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale, mais on sait que par le collectif, pas uniquement, mais quand même, par cette question du collectif, on est vraiment sur des dynamiques qui permettent du soutien, de la résilience, etc. Et ce que l'on voit dans les orientations de politique publique d'une manière générale, c'est d'être de plus en plus sur l'individu. On renvoie de toute façon à la responsabilité individuelle sans s'occuper des déterminants de la santé ou autre, que ce soit le logement, enfin peu importe, je dirais, les déterminants. Donc, on voit bien, et même dans le financement du système de santé, on est de plus en plus vers une prise en charge individuelle. Et pour faire de la promotion de la santé, on a aussi besoin du collectif et de financer du collectif, je le dis de cette façon-là aussi, ça devient de plus en plus compliqué et c'est peu pris en compte, alors que c'est un enjeu vraiment central. Et je trouve que non seulement c'est un enjeu central pour réduire les inégalités sociales, etc., mais ça a aussi un enjeu démocratique. Et je crois qu'on ne peut pas... On ne peut pas dissocier, hein, c'est ce que disait Christine à l'instant, c'est cette question de la société, de la démocratie. Ben, si les gens ne discutent pas ensemble, si les gens... Alors, quand je dis discuter, ils ont le droit d'être en désaccord ensemble aussi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et au contraire, le conflit peut être aussi très fondateur et important aussi. Et je crois qu'il y a quand même une idée de démocratie derrière, de citoyenneté, de renforcer ce sentiment d'appartenance, alors qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, alors pas au sens péjoratif du terme, où on renvoie vers le « just do it » sanitaire, « fais-toi toi-même ». Et je crois que là, il y a un enjeu justement qui se pose à la promotion de la santé dans le contexte actuel que Christine vient de développer, qui semble aussi important. Donc, citoyenneté, démocratie, promotion de la santé, on voit qu'il y a des liens forts et surtout cette place du collectif qui touche aussi de toute façon la question des organisations du travail. Comment travailler en collectif ? Enfin, on voit que cette question du collectif, elle dépasse même le champ de la santé d'une manière générale. Elle est posée d'une manière transversale, de manière assez forte.
Merci à vous deux. Quels souhaits, quelles recommandations vous voudriez donner aux différents acteurs de la santé pour favoriser une promotion de la santé au niveau communautaire?
De mon côté, je ne voudrais pas finir sur une note négative, parce que j'ai décrit évidemment ce que je connais le mieux, qui sont les enjeux au niveau national et la façon dont ça se pose. Je pense que si vous aviez un représentant ou une représentante d'une association régionale promotion santé au micro aujourd'hui, il ou elle vous ferait part d'avancées très importantes et de progrès dans le champ de la promotion de la santé au niveau régional, au niveau local, au niveau territorial. Les structures de notre réseau travaillent dans la plupart des régions de manière très positive, très productive avec les agences régionales de santé, où on trouve des personnes qui, pour le coup, disposent d'une culture de promotion de la santé et soutiennent dans les territoires des projets, programmes de promotion de la santé, véritablement, et avec cette dimension collective que tu appelles de tes voeux, Eric. Les associations régionales travaillent aussi avec les collectivités territoriales qui disposent d'un nombre important de leviers d'action sur les déterminants de la santé, qu'ils appartiennent au secteur sanitaire ou à tous les autres secteurs, en fait, hein, et notamment tout ce qui concerne l'action sur les environnements de vie des personnes, sur la qualité de vie dans les territoires, etc. Et donc là, à ce niveau-là, il y a véritablement des progrès, des avancées qu'il ne faut pas nier. Et en fait, ce que ça décrit, c'est un décalage de plus en plus important entre les politiques qui sont portées au niveau national, qui continuent, comme le disait Eric, à être très descendantes, très injonctives, très centrées sur la responsabilité individuelle et sur le secteur du soin, et au niveau des territoires, des politiques, des projets, des programmes intersectoriels, collaboratifs, qui impliquent les instances démocratiques et qui mobilisent tout un ensemble d'acteurs. Hein. Les associations promotion santé ne sont pas les seules dans les territoires. Il y a aussi des associations thématiques, il y a aussi tout un ensemble d'acteurs, y compris dans les institutions d'ailleurs, hein, qui font un travail remarquable. Et donc, nous avons bon espoir que ces avancées au niveau régional, local, territorial, finissent par irriguer aussi les politiques au niveau national parce qu'elles vont bénéficier d'évaluations positives, parce qu'elles vont montrer, elles vont faire la preuve de leur efficacité, de leur intérêt, de la qualité des effets qu'elles produisent et que ça va finir à terme par avoir une influence aussi sur les décisions qui seront prises au niveau des politiques publiques de santé au national.
Eric, à votre tour.
Oui. Non, il y avait plusieurs éléments. Je pense qu'il y a, et à la fois pour être aussi positif, il y a des initiatives qui se font, mais cette question de renforcer la participation, de favoriser l'engagement, de valoriser aussi l'engagement. Parce que quand je parle de reconnaissance sociale, il y a ça aussi. C'est comment on valorise aussi les initiatives. Comment on valorise, par exemple, le collectif de femmes qui, sur un quartier, va travailler sur telle ou telle question ou qui a réfléchi ou agi sur telle question. Comment on prend ça en compte? Comment le jeune qui va s'engager va être dessus? Donc, je pense que cette question de de faciliter, d'encourager, ça ne veut pas dire que tout le monde va s'engager. Attention, faut pas être, y a des inégalités aussi qui se créent par rapport à ça, mais je crois qu'il y a vraiment un levier pour qu'il y ait plus de démocratie sur les questions de santé d'une manière générale. Parce que si je prends... Alors, au moins les instances représentatives dans le champ de la santé, par exemple, enfin, au moins pour le public que je connais le plus, il n'y a pas de représentants des jeunes. Donc il y a une vraie question qui se pose dessus. C'est un des publics, il y en a plein d'autres, mais un des publics où on lance beaucoup de politiques en tant que telles et c'est le public auquel on demande le moins de participer à l'élaboration des politiques publiques qui le concernent. Bah, c'est un parmi d'autres, parce qu'il y en a plein, d'autres, mais au moins dans ceux que je vois, alors qu'on voit qu'au travers d'expériences d'éducation par les pairs menées dans les lycées, il y a des choses aussi qui avancent dans les rapports, dans la démocratie, dans la prise en compte des questions. Donc on voit que ça a aussi des effets bénéfiques sur l'environnement dans les réflexions. Je crois que cette question de l'encouragement et de renforcer la participation et de valoriser la participation, qu'elle soit proposée par les acteurs, alors je dirais, du domaine de la santé ou par rapport à d'autres domaines. C'est-à-dire, comment la participation, d'une manière générale, est mise en œuvre en France, et ce, quelles que soient les politiques publiques, les territoires, on sait que ça a un effet sur la santé, la participation, etc. Donc, je crois que là, pour moi, c'est un enjeu. Et puis, effectivement, comme le soulevait Christine, d'articuler ou de mieux articuler, on va le dire comme ça, pour être poli, les démarches descendantes et ascendantes. C'est-à-dire qu'il y a des expériences, pas que des expériences, des programmes qui existent en région qui sont pertinents sur les questions de participation ou autres, de santé, que ce soit des approches de santé communautaire, etc. Voilà. Ben, comment on peut faire pour améliorer cette circulation, ben, pour que ça arrive vers le national? Ça ne veut pas dire que le national est inutile, mais comment on associe les deux? Je crois que ascendant et descendant, à un moment donné, quand on dit, par exemple, dans les politiques de jeunesse, comment on développe un dialogue structuré? Justement, comment on fait rencontrer les populations? Et puis, pour faire l'articulation aussi avec, l'éducation populaire, voilà, À Caen, des universités populaires de la santé, où les gens peuvent discuter à quel moment on fait des concertations avec les jeunes sur les questions de santé, à quel moment on fait des concertations avec les personnes détenues sur les questions de santé, ou les jeunes de la PJJ, puisque tu citais les jeunes de la PJJ. Mais on pourrait multiplier sur la question des publics. Et je crois que ça, c'est important parce que ça permet aussi parfois par ces rencontres de désacraliser la question de la santé. Parce que je crois que un des enjeux aussi, et on l'a vu au travers de la crise Covid et par la suite, c'est que la santé n'est pas qu'une affaire de médecin. Et ça reste quand même dans les représentations de manière forte. Ça structure aussi le monde politique. Hein. On voit avec l'hospitalocentrisme, etc. Ça ne veut pas dire, et attention, que je ne dis pas, et c'est nécessaire les hôpitaux, et qu'ils améliorent, qu'ils puissent avoir les moyens d'améliorer, comme ils le disent, parce que ça se dégrade. Et voilà, il faut aussi soutenir cette démarche-là. Mais comment on travaille conjointement sur ce volet-là? Mais à quand une université populaire de la santé où on puisse travailler dessus d'une façon générale?
Alors, à ce propos, la Mutualité française lance son forum jeune Parlons solidarité et santé. Cette rencontre pour les étudiants, les jeunes actifs, les habitants des quartiers populaires ou en ruralité, pour exprimer leurs ressentis par rapport à notre système de santé et de protection sociale.
Il y a très peu d'initiatives de concertation, enfin de concertation, de dialogue avec les jeunesses sur les questions de santé. Il y a eu le Conseil économique et social, enfin la Conférence nationale de santé, pardon, qui avait mis ça en place il y a une dizaine d'années avec une rencontre avec 450 jeunes, qui s'était réuni au Conseil économique et social pour discuter. Donc, il y a une quinzaine de propositions qui sont sorties. Et puis, tu citais les associations régionales de promotion de la santé. Donc, l'association régionale de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec différents acteurs, ont permis de réunir des jeunes de tout horizon pour discuter des questions de santé, d'orientation, de qu'est-ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'il était possible de faire. Après, la question qui reste toujours posée, et par expérience sur les politiques publiques, notamment de jeunesse, c'est entre les propositions et leur prise en compte, comment on travaille sur cet aspect-là. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément clé. C'est peut-être aussi un des grands défis, c'est parce qu'il ne faudrait pas faire, je le dis souvent, mais de la participation bisounours, hein, c'est-à-dire on fait participer les gens pour qu'ils participent et qu'ils dialoguent, et qu'après, il n'y a rien. Participation à Libye. Et justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que par la suite, que ce soit les jeunes ou d'autres publics, mais on va dire, bah, attendez, on a passé du temps. Qu'est-ce qui n'en sort? Rien. Et en plus, vous faites le contraire de ce qu'on a proposé sans discuter. C'est pour ça que je dis que parfois, la question du dialogue et du conflit est aussi nécessaire, parce qu'on peut très bien expliquer pourquoi tel ou tel aspect n'a pas été pris en compte. Et ça peut être entendable et entendu, alors que parfois, bah, voilà, ça reste dans un coin et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui est pris en compte dessus. L'idée, c'est quand même d'avoir une approche globale, hein, d'une façon générale. Ce qui est surtout interpellant, c'est que bien souvent, même des professionnels qui participent à ces réunions, je vais le dire de cette façon-là, après, il peut y avoir des formes complètement... différentes sont aussi très interpellées par le niveau de conscientisation des personnes. Même quand on est auprès des sans-domicile fixe, quand on leur pose des questions sur la santé, qu'est-ce qu'il faudrait, etc., il y a une réflexion. Donc, il y a un vrai enjeu dessus. Dès qu'on prend le temps, dès qu'on nous donne le temps, parce que je crois qu'il y a aussi cette dimension-là, et c'est des vrais enjeux, je dirais aussi, de lien social. Ah, vous intéressez à notre santé, au-delà d'aller dans le cabinet médical, mais on y va pour d'autres raisons, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait en plus?
Merci à vous deux pour vos réponses. Alors, pour conclure, est-ce que vous auriez un livre, un film, un podcast, une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir?
Alors, pour ma part, je vais citer un petit livre qui m'a été offert tout récemment par un ami. Un petit livre de l'historienne Michèle Perrault, qui s'intitule « S'engager en historienne », qui est paru aux éditions du CNRS. Et qui rappelle que Michel Perrault s'est intéressé notamment aux prisons, à l'histoire de l'intimité et à celle de la vie privée, et qu'elle s'est intéressée donc à la périphérie des zones de pouvoir. Et autour des questions de pouvoir d'agir, ça me semble être un regard tout à fait intéressant.
Éric, une recommandation ?
Alors moi, deux choses. Un ouvrage, donc l'ouvrage de Jack London, Le peuple d'en bord, puisque ça a été un des premiers à avoir donné la définition de l'Organisation mondiale de la santé, et que les déterminants, il précise bien, cette question des déterminants de la santé se situe aussi hors du champ de la santé. Donc il se promène dans les bas-fonds, il analyse aussi, c'est par petits chapitres et c'est très instructif, la question de la famille, des inégalités au sein de la famille, des inégalités aussi quand on donne à manger à des personnes détenues par rapport à l'armée, enfin les différences, il analyse les différences de rations. Donc il réinterroge un petit peu toutes les dimensions, et je trouve que ce terme, le peuple d'en bas, est assez intéressant, parce que le peuple d'en bas a aussi des choses à dire, sans être dans une vision populiste du tout. Mais il y a vraiment un enjeu aussi. Écoutez, mais il repose bien ces questions d'inégalité, et je trouve qu'il est vraiment très pertinent dessus. Et puis une chanson qui fait aussi écho à ce que vient de soulever Christine, de Patti Smith, People Have the Power, et je trouve que c'est important de le signer. J'aurais pu dire Bruce Springsteen, Born to Run, mais on va rester sur People Have the Power.
Merci à vous deux pour vos perspectives éclairantes sur l'éducation populaire et la promotion de la santé. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.